voici 7 cassettes pour ton anniversaire, Olive. Tu vas voir, c'est une histoire un peu étrange.
Sajo et ses castors. Sajo, S-A-J-O. Par Gray Hall. G-R-E-Y-O-W. Édition GP. Collection Super, 1959, traduit de l'anglais par Charlotte et Marie-Louise Pressoir, P-R-E-2-S-O-I-R. Première cassette, première face. Je dois te dire que l'auteur est un véritable Indien du Canada et que cette histoire, si elle n'est pas entièrement vraie, est quand même très largement fondée sur les connaissances que l'auteur a des castors. Ce livre est dédié à la jeunesse de tous les pays et à tous les hommes épris de solitude et de silence. Chapitre 1er. Au pays du vent du Nord-Ouest. Loin, très loin des grandes cités, des villes et des villages parmi lesquels vous vivez, bien au-delà des régions cultivées du nord du Canada, s'étend un pays sauvage à peu près inconnu. Si vous vouliez le visiter, il vous faudrait d'abord faire un long trajet par monts et par vaux, gagner une contrée où n'existe ni chemin de fer, ni grande route, ni maison, ni même de chemin tracé, et là, poursuivre votre voyage en pirogue avec des guides indiens, à travers un vaste pays de forêts, de lacs et de rivières, un pays solitaire où l'orignal, l'élan, le daim, l'ours, le loup errent en liberté et que traversent parfois des troupeaux de caribous, des espèces de rennes, si considérables qu'il est impossible de les dénombrer. Dans ce grand nord, vous verriez une partie de l'Amérique telle qu'elle était avant que l'homme blanc l'eût découverte, et telle qu'elle demeurera, je l'espère, de longues, de très longues années encore. Aujourd'hui même, vous n'y verriez pas beaucoup d'hommes blancs. À part quelques trappeurs et trafiquants, les seuls êtres humains qui l'habitent sont des Indiens Ojibwés, O-J-I-B-W-A-Y-S. C'est le nom d'un des peuples indiens du Canada. Ils y vivent par groupes disséminés çà et là, et ce sont eux qui ont donné au pays le nom de Kiwatin, K-2-E-W-A-T-I-N, qui signifie « vent du nord-ouest ». Leur race est fort ancienne, et son établissement dans la contrée remonte si haut que personne, pas même eux, ne saurait dire d'où ils viennent et comment ils sont venus. Hors de portée de la civilisation, ils vivent comme vivaient leurs ancêtres lorsque Jacques Cartier, un explorateur français du Canada, du temps de François Ier, aborda sur ce continent il y a plus de 400 ans. Leur village, composé de wigwams, W-I-G-W-A-M-S, c'est-à-dire des huttes indiennes recouvertes d'écorce et de peaux de bêtes, de tentes ou de cabanes de troncs d'arbres, et souvent éloignés les uns des autres de 150 km ou plus, se rencontrent toujours dans des vallons boisés, des clairières ensoleillées ou le long des rives sablonneuses de quelques beaux lacs. Dans ces petites agglomérations, les familles indiennes mènent, chacune chez elles, une existence heureuse et tranquille, bien nourrie dans les périodes prospères et vivant chichement quand les temps sont plus durs, comme c'est le cas dans les pays plus civilisés. Dans ces villages, tout le monde a fort à faire et les enfants eux-mêmes ont leur part de labeur. Les Indiens changent constamment de résidence et ce sont leurs fréquents déplacements qui occasionnent une grande partie de leur travail. À certaines saisons, il arrive que le gibier dont vivent les Indiens disparaisse d'une région. Il faut alors le suivre ou chercher de nouveaux terrains de chasse. En ce cas, on démolit le village et tout, sauf naturellement les huttes en troncs d'arbres, est chargé sur les pirogues ou sur les toboggans. Toboggan est un mot indien, je te le signale, Et cela veut dire, en indien, un traîneau. Est chargé sur les pirogues ou sur les toboggans, selon l'époque de l'année, pour être transporté à une grande distance. Dans ces voyages d'hiver, les petits garçons et les petites filles, chaussés de raquettes pour ne pas s'enfoncer dans la neige, préparent la piste chacun à leur tour, tout fiers de conduire la longue file de gens, d'attelages, de chiens et de toboggans pendant 2 ou 3 kilomètres de suite. En été, ils rament tout le jour dans la pirogue avec leurs parents et dans les portages, c'est-à-dire quand il y a des rapides ou des cascades et qu'on doit porter la pirogue par terre pour passer ces rapides ou cette cascade, chacun doit se charger de son petit baluchon. Tous ces petits s'intéressent véritablement à leur travail et s'en acquittent avec autant de gravité et de méthode que leurs parents. Ceux de ces petits Indiens qui passent l'été près d'un poste de fourrure ou dans une réserve ont la possibilité d'aller à l'école et se montrent souvent bons élèves. Quelques-uns deviennent même par la suite avocats, médecins, écrivains, artistes et réussissent fort bien dans leur profession. Mais ceux qui vivent toute l'année dans les régions solitaires ont une éducation toute différente. La forêt est leur école. C'est là qu'ils reçoivent les leçons si nécessaires à leur genre de vie. La géographie, l'histoire, l'arithmétique ne leur serviraient à rien. Ce qu'ils étudient, c'est la vie des plantes et des arbres, les mœurs et les habitudes des animaux, la manière de reconnaître leurs traces, le moyen de prendre du poisson à toutes les époques de l'année, et chose encore plus importante, de faire du feu par n'importe quel temps, pluie, vent ou neige. Ils apprennent à connaître les cris de tous les oiseaux, de toutes les bêtes, et arrivent à en imiter fort bien quelques-uns. On leur enseigne à observer les courants et les remous de l'eau dans les rivières et dans les lacs pour qu'ils deviennent habiles à manœuvrer une pirogue. On les entraîne à marcher avec des raquettes, à se servir d'un fusil, d'une hache, et à conduire un traîneau. Et je ne parle pas des menus travaux journaliers, tels que coudre des mocassins, tanner des peaux, trouver du combustible là où il paraît ne pas y en avoir du tout. Ils doivent aussi savoir faire la cuisine. L'usage de la boussole leur est inconnu, néanmoins ils apprennent à se diriger dans la forêt, en observant le soleil, la lune, les étoiles, la forme des arbres, la structure des collines, les allées et venues des animaux, et bien d'autres signes qu'il serait trop long d'énumérer ici. Leur connaissance des choses de la forêt est si grande qu'ils deviennent de bonne heure très indépendants et sont capables de faire tout seuls de longs trajets et d'affronter bravement le danger comme le firent le petit Indien et la petite Indienne de notre histoire. La vie dans ces villages indiens est si rude et si difficile que personne ne peut se dispenser de travailler sans manquer bientôt de nourriture, de vêtements ou d'abris. Et si les Indiens sont toujours prêts à s'entraider et partagent volontiers entre eux tout ce qu'ils possèdent, ils considèrent les paresseux avec le plus grand mépris. Cependant, en dépit de ce dur labeur, les enfants trouvent encore beaucoup de temps pour se livrer à des jeux simples, exerçant leur adresse et leur agilité. Puis, quand le travail du jour est terminé et que tombe l'obscurité, ils aiment à s'asseoir au dehors, sous les étoiles scintillantes du ciel boréal, autour des feux de camp, pour écouter les histoires contées par leurs aînés. Certaines de ces histoires parlent de chasse, de tribus lointaines ou de grands hommes du passé. D'autres sont des récits d'aventures extraordinaires dans la forêt. Mais les plus curieuses de toutes sont, à leur avis, les histoires dites par les voyageurs qui ont visité cet étonnant pays situé si loin vers le sud et d'où viennent les hommes blancs. Ce pays où de grands traîneaux montés sur des roues courent à la vitesse du vent sur une piste de fer et où des pirogues à fumée, ainsi nomment-ils les bateaux à vapeur, se déplacent sur l'eau presque aussi vite. Ce pays où il n'y a pas d'Indiens, peu d'arbres et seulement de hautes files de maisons de pierre entre lesquelles marche avec agitation une foule de gens qui viennent on ne sait d'où et semblent n'aller nulle part. un pays où, dit-on, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez ni manger ni dormir. Et ceci les étonne plus que tout le reste, parce que dans les bois, les voyageurs trouvent toujours, sans bourse déliée, le vivre et le couvert, aussi bien dans les camps de trappeurs blancs que dans les villages indiens. Or, ces jeunes Indiens et bon nombre de leurs aînés connaissent aussi peu les conditions de vie dans les villes que vous n'en savez vous-même sur leur région sauvage. Et maintenant, de même que les voyageurs arrivant des centres lointains racontent à ces petits Indiens aux yeux noirs et brillants des histoires d'un pays qu'ils n'ont jamais vu, moi, qui fus jadis l'un d'eux, je vais vous raconter une histoire de ces terres solitaires situées si loin de vous. Mais d'abord, il faut que vous sachiez qu'à travers cette forêt si sombre et si majestueuse, peuplée de gens et d'animaux singuliers, coulent un grand nombre de rivières qui servent de voies de communication, non seulement aux Indiens dans leurs pirogues rapides, mais aussi à beaucoup de bêtes aquatiques, telles que le castor, la loutre, le wison et le rat musqué. Dans les bois, il y a des pistes sans nombre, qui de vous seraient sans doute inaperçues, mais que les animaux de terre ferme suivent comme de véritables routes, car toutes ces créatures se déplacent continuellement. Comme les humains, elles travaillent sans relâche. Elles doivent, elles aussi, chercher leur subsistance, soigner leurs petits et les nourrir. Certaines vivent seules et sans résidence fixe. D'autres se réunissent en tribus dans de véritables villes qu'elles creusent dans le sol et où les habitations de chaque famille sont réunies par groupes au moyen de corridors souterrains. Les castors, qui sont les plus intelligents de tous ces animaux, construisent des maisons chaudes, aménagent des étangs dans lesquels ils puissent nager et font de grandes provisions pour les mois d'hiver. Ils travaillent presque comme des hommes et ont l'air de causer entre eux dans leurs moments de repos. Bien qu'ils soient obligés de chasser certains de ces animaux pour gagner leur vie, les Indiens ne peuvent s'empêcher d'admirer leur intelligence et leur activité et prennent grand intérêt à tout ce qu'ils font. Les castors jouissent parmi eux d'une considération spéciale et certains Indiens comprennent jusqu'à un certain point ce que ces animaux se disent les uns aux autres car leur voix présente quelque ressemblance avec la voix humaine. Tous les animaux, si petits soient-ils, si inutiles qu'ils paraissent, ont leur raison d'être. C'est ce que savent les Indiens, et jamais ils ne les tourmentent sans raison. À ces êtres qui partagent avec eux la rude existence de la forêt, ils donnent le nom de petits frères. Ils aiment à les apprivoiser. Vous verrez souvent un ourson, de jeunes castors, et parfois une loutre, ou encore un faon de daim ou d'orignal, aller et venir familièrement dans un campement indien. Libres d'aller où ils veulent, ils ne s'éloignent cependant point parce qu'ils se sentent heureux et aiment, semble-t-il, le bruit et l'animation du campement. Quand ils grandissent, ils finissent par s'en aller, mais le village ne demeure jamais longtemps sans avoir un jeune favori d'une espèce ou d'une autre. Et à présent que vous avez une idée de l'aspect du pays, de la manière dont vivent les Indiens, et que vous avez entendu parler de quelques-uns des animaux qu'on y rencontre, je vais vous dire une histoire de petite bête de la forêt, une histoire vraie qui commence sur une de ces routes d'eau dont je vous ai parlé et où vivait une heureuse famille de castors. Il sera question d'un chasseur indien, de son petit garçon, de sa petite fille et de deux tout petits castors qui devinrent leurs amis. Oublions maintenant, si vous le voulez bien, les autos, la radio, le cinéma et toutes ces choses dont il nous semble que nous ne pouvons pas nous passer. Représentons-nous à la place des attelages de chiens, des pirogues, des tentes et mettons-nous en route pour cette terre lointaine et mystérieuse. Vous verrez là-bas de grandes rivières, des lacs, des forêts où murmure le vent. Vous ferez connaissance avec des animaux qui conversent entre eux, qui travaillent et qui vivent en colonie. De grands arbres vous salueront au passage et vous entendrez de douces voix chanter dans les cours d'eau. Et vous, étant assis près d'un feu de camp vacillant, dans un wigwam sombre et enfumé, vous écouterez ce récit du temps passé. Chapitre 2. Longue plume. Un matin, à l'époque où l'œil de l'homme blanc ne s'était pas encore posé sur les eaux froides et transparentes de la large rivière des bouleaux jaunes, un Indien en remontait tout seul le cours rapide dans un canot d'écorce. C'était un homme grand et de belle prestance, avec des yeux sombres au regard perçant et des cheveux noirs qui tombaient en deux nattes sur ses épaules. Il était vêtu d'un costume en peau de daim à franges, auquel la fumée avait donné une chaude couleur brune, et il ressemblait beaucoup aux Indiens que vous connaissez par les images et les descriptions des livres. La pirogue, teinte avec du jus d'aulne, l'aulne, A-U-L-N-E, est un arbre, était du même jaune brillant que les troncs de bouleaux qui couvraient les collines environnantes, et les coutures réunissant les morceaux d'écorce de la pirogue étaient enduites de gomme d'épicéa, noire et brillante, destinée à les rendre étanches. À l'avant de la pirogue était peint un œil semblable à celui d'un énorme oiseau, et tout au bout, à l'arrière, pendait une queue de renard qui se balançait doucement au gré de la brise. Cet Indien aimait à sentir que sa pirogue était une chose vivante, qu'elle avait une tête et une queue, comme toutes les bêtes, qu'elle avait la vue perçante de l'oiseau, en même temps que la vitesse et la légèreté du renard. Cette pirogue contenait une tente soigneusement pliée, un petit sac de provisions, une hache, une marmite pour le thé et un long fusil de modèle ancien. Un doux chuchotement, un léger bruissement produit par le jeu du vent dans les feuilles se faisait entendre sans cesse, provenant du sommet des bouleaux qui garnissaient les pentes voisines, de sorte que les Indiens avaient appelé cette région accidentée les collines au feuillage murmurant. Les deux rives étaient bordées de grands pins sombres et leurs fortes branches s'étendaient à une grande hauteur au-dessus de l'eau. Sous cet abri, des rouges-gorges, des merles et des canaris voltaient et s'agitaient, cherchant leur pâture dans les herbes nouvelles et les jeunes pousses de saule. L'air était tout alourdi par la senteur pénétrante des églantines et des sauges, et çà et là, telle une brillante flèche violette, un oiseau-mouche se lançait d'une fleur à une autre. C'était le mois de mai, appelé par les Indiens le mois des fleurs. Gitchi Miguan, G-I-T-C-H-I-E, plus loin M-2-E-G-W-O-N, c'est-à-dire longue plume, appartenait au peuple Ojibwe. Depuis bien des jours, il remontait à la rame le fort courant de la rivière des bouleaux jaunes et se trouvait très loin de son village. Depuis bien des jours, il poursuivait sa route avec persévérance et ténacité, tantôt naviguant sans peine dans des eaux paisibles comme il le faisait en ce moment, tantôt remontant des rapides à la gaffe et manœuvrant sa frêle embarcation à travers des flots écumants entre de dangereux rochers déchiquetés avec une adresse que peu d'hommes blancs et un certain nombre d'Indiens seulement parviennent à acquérir. Ce matin-là, son chemin se trouva barré par une cascade tumultueuse et splendide, plus haute que les pins les plus élevés de la rive, au pied de laquelle l'eau bouillonnante rejaillissait en gerbes d'écume où se jouait un arc-en-ciel. Gitchi Miguan atterrit juste avant la zone dangereuse où un avide tourbillon cherchait à happer la pirogue pour la jeter sous la cascade mugissante. Il déchargea son canot sur la berge et le saisissant, il le transporta sans dessus-dessous sur ses épaules en suivant une piste de portage à peine visible entre les arbres géants, une piste de plusieurs centaines d'années et si ombragée par les pins que jamais les rayons du soleil n'y pénétraient. Il fit un second voyage pour transporter son léger matériel, rechargea la pirogue, puis reprit son voyage en amont de la cascade, dans des eaux tranquilles et claires. Tout en suivant les méandres de la rivière, il fouillait les alentours de son regard perçant et voyait beaucoup de choses qui auraient échappé à tout autre œil que celui d'un chasseur. C'était l'apparition fugitive de deux oreilles pointées dans sa direction, le reste de l'animal demeurant invisible, ou bien des yeux luisants qui le regardaient du fond de l'ombre. Une fois, il vit un lynx à la robe d'argent disparaître comme un fantôme gris dans le sous-bois. De temps à autre, des daims s'enfuyaient en bondissant, et leurs queues blanches apparaissaient et disparaissaient entre les arbres comme de flottantes bannières. À un moment, il passa tout près d'un bel orignal, aussi grand qu'un cheval, qui, entré dans la rivière jusqu'au poitrail et la tête plongée dans l'eau, fouillait la vase pour en arracher des racines de nénuphar. Absorbé par son travail, la grosse bête ne l'avait pas entendu approcher. Comme Longue Plume s'arrêtait pour la regarder, elle redressa la tête d'un grand mouvement de sa puissante encolure et fixa l'Indien avec surprise, immobile, le mufle et le cou ruisselant. Puis elle fit volte-face, sauta sur la rive et disparut. Mais durant une minute ou deux, le bruit pesant de ses sabots et le craquement sec des branches et des arbustes brisés continuèrent à se faire entendre tandis qu'elle galopait lourdement à travers bois. En dépit de toute cette compagnie, Gitchimigwon se sentait bien seul, car dans son village lointain, il avait laissé ses deux enfants, une fille et un garçon. Leur mère était morte, et bien que les femmes du voisinage fussent bonnes pour eux, leur maman leur manquait beaucoup, et Gitchimigwon savait qu'eux aussi devaient se sentir bien seuls. Tous trois s'aimaient beaucoup et se séparaient rarement, le père emmenant ses enfants partout avec lui. Cette fois cependant, il avait dû les laisser au village, car cette expédition où il pensait avoir maille à partir avec des braconniers risquait d'être dangereuse. Gitchimigwon avait bâti une belle cabane de troncs d'arbres comme demeure d'été pour lui et ses enfants. Ils y vivaient heureux ensemble, se reposant du dur hiver de chasse, quand un Indien crie, C-R-I, c'est une autre tribu d'Indiens, de leurs amis, leur avait signalé la présence d'une bande de métis venus des pays du sud qui parcouraient la région en détruisant tous les castors. Les métis, ce sont des gens qui sont de deux races à la fois. Là, ce sont probablement des enfants de blancs et d'indiennes. Les Indiens des bois, eux, n'empiètent pas sur leur terrain de chasse respectif et considèrent comme un vol toute infraction à cette règle. Mais ces métis des villes, qui avaient oublié ou laissé tomber les vieilles traditions, étaient capables de dévaster tous les terrains de chasse sur lesquels ils passaient. Si Gitchimigwon n'avait plus de fourrure à échanger contre des provisions au poste de la compagnie, ses enfants auraient faim. C'est pourquoi il avait fait tant de chemin pour gagner son terrain de chasse d'hiver, afin de le protéger contre ces étrangers. Mais il n'avait relevé aucune trace suspecte. Et comme le temps maintenant était chaud et que les animaux à fourrure ne valaient plus la peine d'être volés, il estimait sa tâche terminée et se proposait de prendre dès le lendemain le chemin du retour. Oui, il faut que je te dise que les animaux à fourrure ont une fourrure plus drue, plus serrée, plus fournie en hiver, bien sûr, pour les protéger de la chaleur, du froid, alors qu'en été, ils ont une fourrure de moins bonne qualité. Et c'est toujours la fourrure d'hiver que l'on vend. On fait donc la chasse aux animaux à fourrure en hiver et pas en été. Et les Indiens vont vendre ces animaux à fourrure dans ce qu'on appelle un poste à fourrure, c'est-à-dire une espèce de magasin de la compagnie de la baie d'Hudson qui fait le commerce des fourrures en achetant les fourrures aux Indiens, en les revendant aux fabricants de manteaux, de toques, de vestes, des pays des Blancs et qui vendent aux Indiens en échange des provisions, de la poudre, des balles, des fusils, etc. L'esprit occupé par ces agréables pensées, il longeait de près la rive, l'œil aux aguets, pour relever toute trace qu'auraient pu laisser de leur passage ces métis insouciants, quand tout à coup, il respira dans l'air une senteur forte et pénétrante. Un animal, un homme peut-être, venait de passer tout près et avait écrasé en marchant les feuilles d'une touffe de menthe à l'odeur poivrée. Immédiatement en alerte, il jetait un coup d'œil à la rive lorsqu'une bête sombre, courte et trapue, sauta soudain dans l'eau devant la pirogue, plongea comme une pierre et disparut. Presque aussitôt, une tête noire et un dos couvert de fourrure brune surgirent un peu plus loin au-dessus de l'eau. L'animal contourna rapidement la pirogue et, gagnant judicieusement un endroit où le vent lui arrivait de la direction de l'Indien, il flaira cette odeur d'homme que toutes les créatures de la forêt redoutent si fort. Alors, sa large queue plate frappa violemment la rivière, faisant rejaillir l'eau de tous côtés, et rapide comme l'éclair, il plongea cette fois pour de bon. Longue Plume secoua quelques gouttes d'eau qui étaient tombées sur la manche de sa veste de cuir et sourit. Voilà précisément ce qu'il souhaitait voir. Cette bête était un castor. Avant que l'écho du signal d'alarme donné par la bête se fût éteint, un signal semblable se fit entendre derrière le coude suivant de la rivière, bruyant comme un coup de fusil. C'était un deuxième castor. Longue Plume sourit de nouveau. Il commençait à être certain que personne n'avait chassé dans les parages. Si ces insouciantes petites bêtes, qui se laissaient approcher si facilement sur ce qu'on pourrait appeler la grand route, n'avaient pas été capturées, les autres aussi devaient être saines et sauves. Pour s'en assurer, Gichimiguan résolut de visiter l'habitation de ces castors, qui sans doute en abritaient d'autres. Elle ne serait point difficile à trouver, car les castors ont coutume de couper dans leurs expéditions de jeunes plants d'aunes, de saules et de peupliers pour en manger l'écorce. L'endroit où ils abordent est donc jonché de bâtons d'un blanc luisant, et il n'y a qu'à aller d'un endroit où ils ont mangé à un autre pour découvrir où ils habitent. L'Indien arriva très vite à un point où un petit ruisseau se jetait dans la rivière, et comme il s'y attendait, il vit à son embouchure plusieurs bâtonnets luisants, restes d'un repas de castor. Leur demeure, sans nul doute, devait se trouver un peu plus loin en amont du ruisseau, dans un de ces lieux tranquilles qu'affectionnent ces animaux. Les castors avaient pris leur repas à la limite d'un bel endroit découvert où quelques pins géants se dressaient çà et là, comme s'ils étaient venus de la forêt en se promenant et n'avaient pas su comment y retourner. Dans cette clairière, Gichimiguan alluma un petit feu et prépara son déjeuner. Les Indiens, dans leur voyage, boivent beaucoup de thé. Longue Plume inclina une longue perche au-dessus de la flamme joyeuse et y suspendit sa petite marmite après avoir enfoncé solidement l'autre extrémité dans le sol. Puis il piqua des tranches de caribou sur la pointe de bâton fourchu et les disposa devant les braises rouges en plaçant au-dessous des tranches de ce pain indien qu'on appelle banok, B-A-2-N-O-C-K, pour recueillir le jus savoureux qui tombe de la viande au cours de la cuisson. Fin de la première piste de la première cassette, page 25, Sajo et ses castors par Gray Hall.